sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La séance est ouverte. Chers confrères, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de Jean Anguera, élu le 27 février 2013, membre de la section de sculpture de notre académie, au fauteuil précédemment occupé par François Staly. Monsieur Antoine Poncet, souffrant, me prie de vous transmettre ses excuses de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui et regrette vivement de ne pouvoir accueillir son confrère. Il m'a demandé de lire son discours en son nom et place. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, Mesdames et Messieurs, cher Jean Anguera, c'est par ma voix et par ces quelques mots que notre Assemblée vous souhaite la bienvenue. Et ma voix, cher Jean, vous le savez, vous qui me connaissez, je la veux amicale, sonore, bien posée, certes, mais amicale. C'est avec plaisir que je sacrifie à l'exercice de l'éloge académique pour vous dire à voix haute, cette fois devant l'Assemblée, ce que je vous ai déjà exprimé, plus confidentiellement, entre deux portes ou dans un atelier loin du monde. Je fais donc le vœu que ma voix puisse dire un peu de votre travail et de votre vie. Quelle sera en transcrire la sève, en traduire les saveurs et les parfums ? Avec pudeur et sans retenue, sans trop de retenue. Et cette vie et ce travail, cher Jean, seront, je veux le croire, transformés à compter de ce jour qui vous fait nôtre. Ce jour, vous le savez, n'est pas anodin, le cœur y vibre un peu plus qu'à l'accoutumée. À l'heure où roulent les tambours, l'être tremble de peur et de joie. Il y a des ors, des vers, des cuivres, et au milieu, vous. Vous parmi nous. La force expressive de vos sculptures nous a fait vous découvrir, et je m'en réjouis. En 2012, nous vous décernions le prix Simone et Cino del Duca pour l'ensemble de votre œuvre sculptée. Puis, bien peu de temps après, nous décidions à l'unanimité de vous inviter à nous rejoindre. Être parmi nous, cher Jean, c'est être avec nous, à nos côtés, dans les combats et les plaisirs, les querelles et les doutes. C'est accepter les honneurs et, avec, les droits et les devoirs. C'est partager, hériter et transmettre. Ici, les pères s'écrivent P-A-I-R-S. Et les frères sont nombreux. Soyez-en certains. Vous êtes à votre place, cher Jean, sous cette coupole intimidante. Et votre place, vous le savez, fut celle d'un autre qui nous fut très cher, François Staly. Vous ne le remplacez pas, vous lui succédez. Vous héritez de lui une charge, une mission, tout comme il en avait hérité lui aussi. C'est vous dire l'importance non seulement de l'héritage, mais aussi de la transmission. Il vous reviendra de faire entendre votre voix pour défendre la sculpture, la création, les conduire vers des territoires inexplorés et fertiles. Nous sommes des passeurs. Nous nous devons tout à la fois de préserver les richesses de notre passé et d'encourager les artistes de notre temps. Des passeurs. Est-on immensément immodeste de penser cela ? Sans doute. Mais nous sommes convaincus de cette nécessité et de la beauté de cette charge dont nous vous acquitterez, je le sais, avec ferveur. Votre ferveur, cher Jean Anguera, je la connais. Je la connais par cœur. Et mon vouvoiement, le vous que je vous donne, comme disent les Italiens, m'est imposé par la séance et les bienséances. Il contrarie le tutoiement que je vous dessine habituellement et que m'impose ma simplicité et mon amitié. Mais il n'est pas une stricte censure. Il a le mérite d'évoquer un respect. Le respect immense qu'exigent vos travaux depuis si longtemps menés. Vous voyez ici, ce n'est pas tenir à distance, mais tenir en respect. Reconnaître que votre œuvre mérite notre estime et aujourd'hui une place, celle du fauteuil qui vous revient désormais dans notre assemblée. Cher Jean, permettez-moi, modestement, imparfaitement, de dévoiler certains des faits et des gestes qui marquent votre histoire. Vous êtes né à Paris en 1953. Votre père était médecin et votre mère sculpteur. Vous découvrez l'art et la sculpture grâce à cette dernière, qui n'est autre que la fille du grand artiste d'origine aragonaise, Pablo Gargallo. En somme, dès vos débuts, il est question d'héritage et de filiation, d'ascendance et de descendance. Dans votre jeunesse, vous vivez là où a travaillé votre grand-père, au 195 de la rue de Vaugirard. Dans ce quartier longtemps marginal, en ces contreforts de Montparnasse, où s'établirent un temps les héros cosmopolites de la sculpture. Gargallo, donc, mais aussi beaucoup, beaucoup d'autres sculpteurs, mais donc il me manque les noms ici.
Oui, votre travail honore les vôtres et ceux que nous sommes. Il est une ode à la mémoire et une promesse pour l'avenir. Il se souvient et se projette, récapitule et envisage. En un mot, il est moderne. Pour autant, mes paroles ne doivent pas tromper. Je n'ai aucunement l'intention de vous impliquer dans d'éventuelles querelles entre les modernes et les classiques, les protecteurs d'une tradition et les contemporains. Vous vous souciez si peu de ces altercations, et là n'est pas l'essentiel. Il me semble, en revanche, que votre œuvre sculptée tient tout à la fois du fugitif et de l'intemporel, du transitoire et de l'immuable. Mais revenons à présent à votre vie, à votre parcours. Cher Jean, j'ai eu grand plaisir, afin de pouvoir vous livrer ces mots, à regarder votre parcours, à le lire. Non qu'on se fût une découverte, votre travail m'est trop familier pour cela. Mais cela constitua une véritable opportunité, celle d'y déceler une constance, une cohérence, une immense cohérence même. Une cohérence que l'on pourrait appeler logique ou intensité. Oui, cher Jean, tout cela me paraît intense. En vue de préparer votre éloge, j'ai lu vos mots. Mais plus que tout, j'ai pensé à vos sculptures, à leurs titres évocateurs. Géographie sentimentale, paysage prélevé, l'homme approché, l'inconnu dans l'atelier ou l'homme jusqu'à la plaine. J'ai considéré leur forme, leur pesanteur, j'ai scruté les sillons et les bosses, les volumes et les creux. Cher Jean, vos œuvres ont tout à la fois une matérialité extraordinaire et une inconsistance délicieuse. Elles sont la présence et l'absence, la stabilité et la fugacité, l'être et le néant. Regardez la sculpture, votre sculpture, cela se mérite, mais cela excite l'imagination, suscite le rêve. La sculpture, nous le savons, n'est pas l'art le plus séduisant. Sculpter, cela se travaille. Nulle facilité en sculpture. Juste un combat avec la terre, avec le plâtre, avec la boue, avec de la matière inerte que l'on met en forme, que l'on métamorphose en monument d'airain, de bois, de pierre, ou ce qui est votre cas, de résine polyester. De nos mains, malaxer la chair, pétrir la glaise, animer la matière, transposer les formes, l'œuvre est périlleuse, cela ne fait aucun doute. On ne devient pas sculpteur par hasard, mais par nécessité. Cela s'impose à nous. Et aujourd'hui, cher Jean, il m'apparaît que votre œuvre, oui, s'impose à nous avec force logique. Cher Jean, vous souvenez-vous que petit déjà, vous jouiez à la terre, vous faisiez de la matière une camarade, tout à la fois ludique et sérieuse. Petite récréation qui, logiquement, vous conduisit à vous inscrire à l'Académie de la Grande Chaumière en 1967. Là, vous avez appris le dessin, qui est la projection mentale de nos idées, une grammaire des beaux-arts. Dessiner, c'est balbutier le monde, essayer d'en percer les arcanes pour peut-être passer à autre chose. Dessiner, c'est tout à la fois apprendre et se libérer. Une mécanique qui vous est chère et que vous expérimentez encore aujourd'hui par vos encres et vos fusains, ces feuilles qui, à bien des égards, ont le goût subtil de l'émancipation. Dessiner revient à expérimenter la planéité, la bidimensionnalité. C'est essayer de comprendre combien le corps du réel peut être approché de mille manières sur une feuille ou dans la terre, au crayon ou à la gouge. Dans votre jeunesse, déjà, vous dessiniez et vous sculptiez. Avec facilité, vous passiez d'un domaine à l'autre, vous expérimentiez les possibles. Un peu plus tard, lorsque vous avez intégré l'école des Beaux-Arts, c'est par sa classe l'architecture, la classe d'architecture, comme si, là encore, vous teniez à jouer avec les échelles, à excéder les genres. De l'architecture à la sculpture, il n'y avait qu'un pas. Vous souvenez-vous des prescriptions de Bourdel, lui qui aima signer ses bronzes et ses deux mots accolés par un trait d'union. L'architecture et la sculpture ne séparent jamais leurs lois. Elles sont de la même matière, de celles qui peuplent la cité et façonnent nos rêves. Celles qui, en volume et dans l'espace, mobilisent notre regard et nos mains. Nous vaut d'être des artistes et des artisans. Ce n'est pas un hasard. Si toujours à l'école des Beaux-Arts, vous avez également intégré la classe de sculpture de César, et ce, de 1973 à 1977. Manière de continuer à rendre perméable une pratique à l'autre. Manière de performer les domaines, les techniques, en un mot, de les désenclaver. De la forme plane au relief de la sculpture à l'architecture, de l'architecture à la scénographie, un autre domaine qui vous a fasciné. Il n'y a qu'un pas. Oui, certains des pédagogues que vous avez croisés vous ont particulièrement marqué. Je pense notamment à l'architecte Jacques Bosson, qui était passionné de théâtre, et à Jacques Lecoq, qui était comédien et mime. Leur personnalité et leurs paroles devaient retenir votre attention. Et sans doute, retrouviez-vous dans leur enseignement des perspectives et questionnements nouveaux. Comment percevoir un corps dans l'espace? Comment circonscrire les formes? Appréhender les volumes, les surfaces, les vides, l'espace, la matière? Autant de questions fondamentales auxquelles votre sculpture répond encore et toujours. Lorsque vous étiez aux Beaux-Arts, vous consacrez un mémoire d'études aux ateliers d'artistes. Vous explorez des territoires familiers en architecte avec discrétion et distance. Dans ces mêmes années, vous utilisez la photographie pour appréhender l'espace. L'objet de vos images argentiques, les sculptures de votre grand-père. Par le jeu de la représentation photographique, la tôle pliée devenait une épure. Elle construisait l'espace, le fractionnait, le modulait, le créait. Cette expérimentation devait être décisive. Elle vous conduisait un peu plus près de la sculpture. Vous découvriez ces liens intimes entre sculpture et architecture. Ce travail n'était pas simplement remarquable, il fut bientôt remarqué, notamment par la galeriste Carmen Martinez, qui vous appuya pour publier cette investigation inédite et vous enjoignit d'écrire un essai sur la sculpture de votre grand-père. Et cette rencontre fut importante, puisque cette galeriste vous soutint longtemps, certaine d'avoir trouvé en vous un artiste. Du reste, en 1978, vous abandonnez tout pour la sculpture, pour la nécessité de la sculpture. Rappelons à ce propos qu'en 1977, vous exposez vos œuvres pour la première fois avec celle de Laure de Ribier au musée Ernest Rupin de Brive. Vous décidiez ainsi, et plus que jamais, de consacrer votre œuvre et votre vie à l'espace, à cette notion majeure qui hante les artistes, à ce mot sublime que vous alliez affronter à l'instar de Giacometti dans la dissolution de la figure, espace qui ronge, espace qui rogne. Vous trouviez très tôt et avec force intensité votre chemin ce chemin implacable qui vous conduit aujourd'hui à nous, et logiquement, je veux le croire. Cher Jean, votre œuvre, pour l'envisager pleinement, il faut pouvoir l'observer, en faire le tour, la toucher, des mains et du regard, la soupeser par l'esprit. Du reste, qui saurait parler d'une création sans la dénaturer ? Les mots peuvent-ils lutter devant le silence de l'airain ? Aussi, pardonnez cette modeste tentative d'approche à laquelle je me livre, cher ami. Je parlais à l'instant de chemin, et ce chemin, si nous le suivons, il mène à Givrennes, dans le Loiret, où vous travaillez depuis 1983, 30 années déjà. Là-bas, loin de la vie tempétueuse, à équidistance de tout, vous arpentez les paysages, les pays, les terres lourdes et les ciels bas. Là-bas, vous êtes chez vous, terrien et terrestre, tellurique même. À Givrennes, vous avez découvert une terre humble, élémentaire, d'où l'homme n'est jamais exclu pour la simple et bonne raison qu'il est toujours présent. La terre, il la reçoit et la façonne, l'accueille et la subit, il la hante. Oui, la terre hante l'homme, et symétriquement, l'homme hante la terre. Millet et Van Gogh savaient, comme vous, cette intrigation de la nature et de l'humanité. De l'arbre avec le bûcheron, de la plaine et du semeur. L'argile trahit bien ce scrupule. Elle appartient à la fois au règne naturel et au règne artistique, au laboureur et au modeleur. Et l'argile, cher Jean, vous la manipulez à l'envi, avec tact et intensité, comme le font les plasticiens et les paysans. Autrement dit, les hommes d'un pays, les hommes d'un paysage. Vous pétrissez la terre, vous la creusez avec les doigts, un ébauchoir, une mirette ou tout instrument capable d'accomplir vos rêves. Puis, de transposition en transposition, la terre devient paysage, figure. Par la suite, lorsque vous choisissez d'arrêter de modeler, la résine polyester vient prendre la place de l'argile, offrant à l'œuvre sa pérennité. Votre œuvre est née de la terre, et si vous avez choisi la plasticité d'une résine synthétique, vous chargez aussi cette matière de cendres et de sable, manière d'opérer un autre retour à la terre. Regardez vos œuvres, cher Jean, c'est pénétrer cette harmonie indissoluble entre la terre et l'homme. Vos figures ne sont jamais individualisées. Sans yeux ni bouche, elles ressemblent à des marcheurs immobiles, à des pétrifications énigmatiques, tantôt horizontales, tantôt verticales. Par leur concavité et leur corrosion, elles paraissent, c'est selon, vallonnées et érodées, comme le sont les paysages. Difficile de savoir si les entailles sont des rides humaines ou des sillons agricoles, si les éminences sont des saints ou des collines, si vos résines exhument des continents endormis ou des êtres enfouis. Cette indistinction fait la beauté de vos sculptures. Regardez vos œuvres, c'est éprouver l'immensité du monde et considérer la finitude de l'homme. Est-ce ce sentiment qui vous guide encore lorsque vous pétrissez la terre ? J'ose le croire. Je sais le temps que vous passez à sillonner la campagne. Je sais encore que ces promenades solitaires font naître en vous des rêveries. Je sais que ces rêveries vous poursuivent jusque dans votre atelier et que c'est là qu'elles prendront forme, dans l'argile. À cet instant, permettez-moi de reprendre quelques mots d'une lettre que vous m'avez adressée. Je renoue jour après jour ce dialogue avec la plaine. La plaine est mon atelier. Ma sculpture s'y trouve avant que je la ramène avec moi. Un jour, suivant un chemin habituel, ces chemins sillonnés de traces sans cesse réécrites, où j'appréciais à nouveau ce déploiement de l'espace, j'aperçois au loin la minuscule silhouette d'un homme simple tiré entre terre et ciel. Nous avancions l'un vers l'autre, mais les détours du chemin me permettaient de le voir tantôt de face, tantôt de profil. La silhouette s'approchait lentement. Je fus soudain stupéfait de me rendre compte à quel point le spectacle grandiose du paysage venait soudain se concentrer en l'homme. Tout venait y converger. Cette silhouette minuscule absorbait tout. Cet homme donnait sens à la perspective, à la totalité de l'espace et à son organisation. Ce sentiment de l'espace, cette appréhension du monde et de l'homme se rencontre dans vos sculptures, dans toutes vos sculptures. Depuis celles que vous exposiez en 1994 et 2006 dans les galeries Lina Davidoff et Marwan Hoss, jusqu'à celles que vous présentiez à la ferme Ornée à hier en 2013. Vos expositions personnelles trahissent ce règne de la beauté trouble. Elles disent aussi la cohérence à l'œuvre. Celle qui vous voit entremêler, comme le fait l'alchimiste, des figures humaines et des paysages devinés. Il s'agit à l'évidence d'ériger un peuple immémorial et, pour reprendre les mots de Jean-Marc Providence, d'une résistance à la vaine agitation du monde. Devant votre travail, cher Jean, je pense souvent à Giacometti et à son œuvre « La place ». Là, sur une large terrasse, le Suisse disposa des silhouettes filiformes et silencieuses, presque immobiles, comme arrimées, amarrées à la terre, solidaires et solidarisées de ce monde qui les porte. Il nous rappelait ainsi l'irréductibilité de l'espace, son caractère merveilleux et angoissant, ardent et dévorant. L'être réduit à presque rien faisait corps avec le monde, et il me semble que votre vocabulaire parle cette même langue intense, figurative peut-être, figurée certainement, et je puis vous le dire solennellement, officiellement, puisque le jour s'y prête, cher Jean, cela est rare, très rare. Je vous remercie.
Libère le sang.
Non, attendez, je le vois.
C'est la partie.
J'ai mon cheveu. J'ai mon cheveu.
La parole est à présent à Monsieur Jean Anguera.
Il y a de la magie dans l'air, il y a de la magie dans l'art. Magie ? L'art est impossible s'il n'est pas sensible au mystère entre les êtres, entre les choses, entre les êtres et les choses, à notre mystérieuse amitié. Magie ? Magie de ce réel entre effacement et renouvellement. Il faut imaginer un fond d'où s'extrait la présence, une réalité plus vaste, source et embouchure qui précède l'apparence et la recueille. Magie. Entre cet infiniment intime, ce plus proche qui devance notre pensée, et ce plus loin, cet infiniment vaste, au-delà du paysage, il y a la sculpture, plus mince qu'une feuille de papier à cigarette, qui reste porteur de vie. Avec Françoise Thalie, j'ai l'impression de partager cette veille de la magie sous le feu de l'art. Elle explique la simplicité de ses œuvres. Elle habite ses œuvres. Elle inspire ses écrits. Elle explique sa tendresse, sa patience, rendue complice de l'invisible naissance. Françoise Thalie avance à notre rencontre. La sculpture lui sert de regard. Il avance dans la surprise du monde, dans l'étonnement de son propre souffle, convaincu de l'existence d'un pacte secret, d'un accord nécessaire. Nous passons en revue les sculptures. Nous sommes en habit de fantôme. L'air est enfin transparent, l'espace est découvert. Tu dirais, l'art, c'est être ému profondément. Rendre un hommage à Françoise Thalie, c'est avant tout rencontrer sa sculpture, celle d'un homme en quête d'une existence réelle, d'une vie dont la sculpture serait la principale substance. Faire l'éloge de Françoise Thalie, c'est témoigner de la pleine actualité de son œuvre, vivant malgré le cours du temps. Et précisément, si le temps sur sa sculpture n'a pas prise, c'est parce que Françoise Thalie dissociait la création artistique des contingences historiques, quelle que fût l'importance des événements. Dans sa conception de créateur, la sculpture s'adresse à une dimension de la réalité qui n'est pas modelée ni érodée par l'histoire des hommes, aussi tragique fût-elle, mais par une force supérieure dont l'histoire n'est qu'un avatar. Pour être fidèle à la mémoire de Françoise Thalie, il me faut aller dans son sens, porter toute mon attention sur son art et taire les épisodes heureux ou douloureux de son existence, qui, s'ils ont pu parfois influencer profondément les conditions de son travail, n'en ont pas dévié le cours intérieur. Je ne donnerai qu'un seul témoignage, mais ô combien probant, de ce détachement de l'art avec les circonstances pour Françoise Thalie. Alors qu'il commence à peine sa sculpture, l'Europe plonge dans la guerre. Dans la situation éprouvante qui devient la sienne, pourchassé par les autorités allemandes pour cause de désertion, et forcé de trouver refuge en Bourgogne, en pleine campagne, sa sculpture est un moyen crucial de se couper des événements, de trouver une forme de recueillement. Ainsi, il confiera en 1993 à Enrico Crispelti: la guerre n'a rigoureusement rien changé à ce que je faisais. Je me disais, comment puis-je continuer si tranquillement avec la catastrophe qui pèse sur nous ? La sculpture était un domaine réservé et ce domaine restait intact. Je n'ai jamais eu envie de faire autre chose. Elle est un domaine dans lequel je suis maître, maître de moi-même, où je trouve une espèce de liberté de rêver et d'exister. Malgré les conditions précaires qui étaient les siennes et celle de son entourage. L'art lui préserve un espace loin de l'absurdité, loin de l'angoisse et de l'horreur, un abri purement mental, sans consistance matérielle certainement, mais en revanche, lui offrant le séjour d'un enjeu supérieur où il sent sa véritable place. Il trouve dans son territoire restreint l'unique possibilité de construire un îlot d'harmonie, de faire apparaître un contrepoint à la violence et au désordre des esprits qui l'entourent. C'est dans ce contexte que va naître sa sculpture, et c'est à l'encontre de ce contexte, par une sorte de dépassement, qu'elle va prendre forme. Et d'abord, dans de toutes petites œuvres, travaillées dans des bois qu'il trouve sur place. C'est de l'une d'entre elles que je parlerai tout à l'heure, et pour commencer, parce qu'elle me semble être le signe avant-coureur de toute la démarche artistique de François Staly. Sur le trajet pour me rendre chez Parvin Curie, campagne de François Staly et sculpteur elle-même, je réfléchissais à l'idée d'abstraction en art. Il me semblait que François Staly avait fortement contribué à l'avènement de l'abstraction. Jusqu'alors, la sculpture s'était attachée à la représentation du corps, soit pour en magnifier l'apparence, soit pour traduire les sentiments qu'il habite. La sculpture était figurative. La sculpture de François Staly commence à un moment où les esprits sont gagnés par la volonté, où la conception de l'art est à un tournant. Les esprits sont gagnés par la volonté d'une représentation qui ne fasse plus référence au modelé du corps. Désormais, chaque créateur va apprécier d'une manière personnelle cette idée d'abstraction. La certitude d'un langage commun est abolie. En somme, rien ne m'assurait que je saurais regarder la sculpture de François Staly de la façon dont il l'a regardée. Je pensais qu'il me faudrait faire la synthèse de ses conceptions avant de juger à juste titre de chaque œuvre. Quel plaisir éprouver si ce n'est un plaisir partagé. Je m'armais de l'effort à faire pour sortir de ma vision personnelle afin de tenter de m'approcher au plus près de celle de François Staly. Cependant, une des premières choses que me confiera Parvin Curie, qui m'a si gentiment et spontanément accueilli dans ce jardin, maison, atelier, dans ce lieu où se mêlent de manière romantique les sculptures, la végétation, les toits et les terrasses, comme si elle avait lu dans mes pensées, et j'en étais secrètement sidéré, c'est que François Staly ne considérait pas sa sculpture comme abstraite, mais figurative, prenant la nature pour modèle, avec l'homme au cœur de cette nature. Pour François Staly, l'abstraction consistait en l'idée pour elle-même. Or, sa sculpture ne partait jamais d'un concept ou d'un quelconque schéma intellectuel, mais du spectacle que lui offrait la réalité. Ainsi, très vite, je découvre que Staly, sculptant, cherche à épouser la nature, à s'y associer, cherche à éprouver le lien qui existe entre la matière, la nature et lui-même. Sa sculpture est le résultat d'une attitude et elle est finie quand le lien est pleinement établi, quand le mariage est consommé. Si Staly nous invite à aimer ses œuvres, on peut se demander s'il ne nous propose pas essentiellement de prendre exemple sur lui, en ayant avec la réalité ce même désir de fusion. Sa sculpture est un enseignement, le modèle d'un regard. Elle n'est une fin que sur un plan personnel. On comprend, dans ce cas, la nécessité d'un regard heureux, d'un regard confiant, d'une attitude modeste, puisqu'il s'agit de se fondre et non de dominer. Le véritable créateur, c'est la nature, et plus largement la vie elle-même. C'est pourquoi la notoriété, avoir un nom, lui paraissait accessoire, presque embarrassant. Il aspirait souvent à l'anonymat, comme celui de ces bouleversants imagiers du Moyen-Âge qui ne signaient pas leurs ouvrages. Il aspirait à l'état parfait de l'anonymat. Il dira à propos de la fontaine du parc floral de Vincennes « J'ai presque réussi ce qui est ma plus haute ambition, faire une œuvre anonyme. Et ce n'est pas chez Staly, déjà à l'abri de la célébrité, une posture hypocrite. Loin de là, en parcourant le récit de sa vie, mais aussi à la lecture de ses écrits, on s'en persuade aisément. Parvin Curie me montre une des toutes premières effigies en bois réalisées par Staly pendant l'occupation. Il est frappant de constater à quel point cette sculpture est éloignée des travaux qu'il faisait à l'Académie Ranson, sous le professorat éclairé de Charles Malfray, et de s'apercevoir qu'elle est déjà pleinement partie prenante de toute l'œuvre qui va suivre. L'essentiel de l'évolution est donc fait, ou bien s'accomplit brusquement dans son refuge. À croire que toute l'œuvre à venir sera le siège d'une lente prise de conscience, d'un lent processus de déploiement d'une évolution déjà acquise. Cette petite sculpture, inspirée de la Vénus de Lespugue, me précise Parvin Curie, est étonnante de concision. À l'instar de cette origine préhistorique de l'art, elle est un point de départ manifeste, mais par la dynamique de ses formes, par la dynamique de ses mouvements, par son asymétrie, elle fait plus songer à un éloge de la vitalité, à une danseuse, qu'à une idole de la fécondité. Je ne l'ai pas revue depuis ma visite chez Parvin Curie, mais dans mon souvenir, elle ne fait pas plus de 25 cm de haut. Elle est précieusement polie, parfaitement fluide et sensuelle. Le modelé en est précis et délicat. Elle suggère un corps féminin, mais les mots ne peuvent la détailler et l'esprit ne peut définitivement la saisir, cherchant involontairement à la rapprocher d'une anatomie réaliste. L'ensemble s'articule autour d'un équilibre intérieur, mais sans être un assemblage de formes. Rien n'est rond ou carré, rien n'est concave ou convexe, rien n'est véritablement pointe, rien n'est véritablement creux. Tout est accent, tout est arc, comme si la main du sculpteur, dès qu'elle percevait une géométrie, se dépêchait de s'en écarter. Elle fait songer à mille choses sans en être aucune. Elle s'approche et s'éloigne de tout. Elle se situe dans un espace de la pensée où toute référence est un échec, où le signe se refuse. Elle offre le spectacle d'un modelé qui s'invente sans cesse de manière imprévisible, passant d'une courbe à une autre sans jamais la moindre rupture, sorte de piège au regard qui ne trouve pas d'issue, ni de halte, où il pourrait souffler un peu. Non, c'est le règne de la continuité, de l'ininterrompu, il s'agit d'un univers en soi. Parlant de cette sculpture, bien que première et petite, je m'y attarde, parce qu'elle est genèse, elle est bois, elle est organique, et qu'elle va grandir et se multiplier. Et en ce sens, François Staly avait bien raison. Elle est féconde, Vénus de la fécondité, qui enfantera de nombreuses variations. Si elle signe à sa façon l'esprit de François Staly, elle évite ce qui caractérisera ultérieurement beaucoup de ses œuvres. Je veux parler de la symétrie. Je m'interroge sur cette notion de symétrie. À l'encontre du chaos, elle établit une règle simple et rassurante. Attirante quand elle traduit sérénité et apaisement, voire fascinante pour son effet miroir, mais tout au contraire repoussante quand elle est perçue comme un procédé systématique et contraignant. Toutes les disciplines artistiques ont été confrontées à la symétrie, à une forme d'obligation de son emploi, et particulièrement l'architecture, longtemps et fortement. Et la sculpture, tout autant, fut tributaire de la symétrie, sans doute à cause de sa longue dépendance à son principal objet, qui fut le corps humain, dont elle a fait un modèle absolu, central, et qui possède ce caractère de symétrie, caractère qui nous est si familier, si ordinaire, que nous oublions qu'il reste un facteur décisif de la figuration. Mais qualité étonnante, véritablement inexplicable, et qui demeure d'ailleurs une énigme scientifique. Ainsi, toute œuvre, même dite rigoureusement abstraite, si elle présente une symétrie, ferait référence au corps de l'homme, contiendrait quelque chose de son équilibre, ne serait-ce qu'un écho lointain, parvenant à notre sensibilité et préservant un lien essentiel. Cependant, à l'appui de cette petite Vénus, Staly entend libérer sa représentation des critères anatomiques habituels. Et la symétrie fait les frais de cette volonté. Son mot d'ordre est « liberté », il suffit de l'oppression extérieure, « liberté des formes », « liberté du regard », « liberté », mais pour atteindre un autre équilibre, et précisément cette fusion avec l'organique. Grâce aux incitations de la matière, aux orientations des fibres du bois, qui deviennent inclinations de l'esprit, Staly aborde un autre champ du regard. Cette petite œuvre amorce une révolution, et bien souvent en art, les révolutions commencent par de petites œuvres. Nous gagnons le jardin par lequel je suis arrivé. De part et d'autre du chemin qui mène à la maison se mêlent les sculptures de Parvin Curie et celles de François Staly. On ne peut guère confondre les deux œuvres. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser qu'elles entretiennent une secrète complicité. Les portiques entrecroisés de Parvin Curie suggèrent un espace intérieur, quelque abri préservé du regard. Les œuvres de Staly tournent leur forme vers l'extérieur, se livrent sans crainte à l'espace. Nous nous arrêtons devant une grande forme aplatie, circulaire, puissante rêverie nuageuse en pierre polie, intitulée « Nouveau-né géant ». Flottant dans le vide, cette sculpture rassemble une masse compacte de reliefs tourbillonnants, donnant un sentiment d'extrême lenteur et d'extrême douceur, avec encore cette fluidité qui inondait déjà le relief en bois de la petite Vénus. Nous voici en présence de ce qui est comparable à un fœtus géant baignant dans des eaux maternelles, l'expression d'un parfait détachement, d'un complet recueillement, de la vie avant la vie, éloge de la vie, douceur et sérénité, mais qui précède l'exposition aux rudesses de l'existence. Accoucheur, accouché, Staly met au monde la fragilité du monde, univers intérieur, jusque-là abrité, qui se découvre et d'abord à lui-même. Comme avec la petite Vénus surgissant du néant et remodelant la réalité, on assiste avec le nouveau-né à l'apparition d'une totalité. Totalité fermée sur elle-même, comme une graine, et pourtant ouverte au monde. Nous sommes confondus par cette représentation en miroir du même, monde inversé d'une autre symétrie, par cette sensation d'un mystère exposé, d'un présent vertigineux, ce qu'est véritablement la sculpture. Et je pense à ce lien d'étachement, à cet univers dans et hors, sur lequel il faut réactiver notre attention pour découvrir à quel point il a des visages différents, à quel point il est facteur de vie. Le hasard a voulu que quelques jours plus tard, une amie m'ait permis de découvrir un jardin chinois situé en bordure de région parisienne. La visite se fit en compagnie de son concepteur, une femme architecte chinoise. En divers lieux de ce jardin étaient érigées des pierres monumentales, gravées d'idéogrammes. Notre guide nous explique, avec un petit rire empreint de modestie asiatique, qu'elle dessine des jardins à la française en Chine et ne réalise des jardins chinois qu'en France. En guise de remerciement, il lui était fréquemment offert un de ces rochers étonnants, incomparables œuvres de la nature pour lesquelles les Chinois ont la plus grande estime. Sur leur flanc, le lettré chante les poèmes qui les nomment, ce faisant, il les signe. En contemplant ces rochers, je n'ai pas manqué de les rapprocher des sculptures de François Staly. Et à ces interrogations constantes sur les rapports de l'homme avec la nature. Une œuvre est avant tout affaire de regard. Elle est art parce que désignée comme telle. Mais le lettré chinois signe une œuvre dont il n'est pas l'auteur. Ce faisant, il y élit domicile, parce qu'il la reconnaît, parce qu'il désigne son caractère remarquable. Il lui donne un nom, et la nommant, il la sépare de la réalité à laquelle elle se confondait. François Staly agit-il autrement ? Peut-on ne pas voir dans sa première Vénus en bois la racine ou la branche qui la contenait en puissance, ou dans le nouveau-né géant le souvenir du bloc informe de la pierre ? Le processus de sa création fera dire à Staly « L'artiste rend visible ce qui est caché aux yeux des autres. Caché dans le vide ou dans une forme préexistante, comme ce fut essentiellement le cas chez François Staly. À sa façon, il illustre la célèbre formule de Francis Bacon « L'art, c'est l'homme ajouté à la nature. » C'est plus que cela encore, si l'artiste plaçant un miroir devant la réalité en fait surgir le double, et s'il est confiant tel que le fut François Staly envers et contre tout, un double sublimé, une apologie de cette réalité. Voyez le thème des Gémeaux dans l'œuvre du sculpteur. Mais dans cette conception des choses, le lettré chinois n'est-il pas définitivement le plus confiant, puisqu'il admet le monde tel qu'il est, sans retouche, il signe, rien de plus, à la façon d'un Duchamp vieux de 4000 ans. Pour lui, l'art se résume à voir, à trouver au milieu du chaos apparent ces pierres étonnantes. Et dans cet étonnement du voir, à sentir la manifestation d'un univers en réduction, la découverte d'un monde rendu accessible. À charge de celui qui contemple ces rochers d'en faire la lecture, d'en déchiffrer les mystères ou d'en vivre le sens. Décidément, oui, l'analogie est frappante avec les œuvres de François Staly, mais la différence aussi est conséquente. La pierre que découvre le lettré, il la tire d'une nature extérieure. Il l'extrait de l'apparent. La sculpture que réalise Staly, il la tire d'une nature intérieure. Il la tire de l'invisible. Apparition symétrique des deux côtés d'un même miroir. L'une est toute faite, l'autre est à faire. Toujours guidé par mon hôtesse attentionnée, nous allons visiter l'atelier de François Staly, qui se trouve de l'autre côté de la rue. En surplomb, derrière l'atelier, il y a un autre jardin de dimension plus modeste. Je nomme ce lieu extérieur jardin, mais il s'agissait manifestement d'un endroit de travail, une sorte d'atelier en plein air, un lieu reconquis par la végétation, faiblement mais suffisamment, pour donner cette atmosphère de temps écoulé. Cependant, il règne encore fortement la présence de Françoise Staly. Elle imprègne l'espace, y est diffuse, comme une respiration qui réveille puis endort à nouveau le sculpteur. Peut-être ce qui prédomine est-il un sentiment d'abandon, la sensation d'une dérive imprécise des espaces et des choses. Nul n'a recouvert les traces laissées par le sculpteur. J'ai l'impression que mon hôtesse et moi marchons prudemment, parlons à mots couverts. Il y a contre les murs de grands bas-reliefs reproduisant des effets de vagues. Encore fortement la fluidité, encore manifestement cette évocation de l'eau, de l'élément marin, d'une réalité flottante, d'une réalité liquide qui est sans être, mais dans laquelle confusément nous baignons en contemplant les œuvres du sculpteur. Cette fluidité qui joue sur ses formes, qui les anime à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et leur prodigue sans cesse une sorte de déplacement, va finalement se convertir en l'emploi direct de l'eau dans les nombreuses fontaines qu'il réalisera. Il est plus facile de se faire payer en tant que fontainier qu'en tant que sculpteur. Ironise Staly dans un reportage filmé fait sur lui en 2002 par Philippe Lanfranchi, discrète manière de rappeler incidemment les difficultés de vivre du sculpteur, mais aussi de justifier humblement la création de ses fontaines. Et ainsi laisse-t-il à l'humour le soin d'aborder la gravité de son travail. Plus sérieusement, il ajoute, une fontaine a ce pouvoir magique de réunir les gens, de déterminer un lieu qui rassemble. Ce ne sont pas ces grands reliefs qui retiennent durablement mon attention, mais de façon inattendue, un ensemble délaissé de pierres de petite dimension, ordonnées comme sur un échiquier et abandonnées sur le talus bordant le jardin. J'éprouve soudain une tendresse particulière pour l'espace qu'elles déterminent. Peut-être parce qu'elles offrent au champ du regard une sorte de jardin miniature, espace minéral, jardin dans le jardin, architecture en gradin d'une ville lilliputienne. Il s'agit de la maquette d'un projet que Staly n'a pas terminé, commente Parvin Curie. Certains blocs sont restés bruts, mais la plupart sont épanelés grossièrement, mais régulièrement, en donnant à leur surface une vibration de coups et d'éclats, des coups donnés avec franchise, ouvrage de confiance, et pourtant arrêté net. Je me trouve devant une famille, un exode. Apparaît visible et laissé à l'état natif la marche d'une pensée qui soudain s'est tournée ailleurs, à cause d'on ne sait quel bouleversement. Manifestement, cet ensemble ébauché ne constitue pas une œuvre et je suis gêné de m'y intéresser avec la crainte de paraître irrespectueux à l'égard de ce grand sculpteur qui offre tant de réalisations magnifiquement abouties. Pourtant, cet ensemble représente en gestation les grands projets architecturaux auxquels se consacrera François Staly à partir de 1965, et dont le plus spectaculaire sera le jardin labyrinthique installé à New York, dans l'État d'Albany, plutôt installé à Albany, dans l'État de New York. Grande forêt urbanisée où la nature sauvage du bois, devenue simultanément représentation humaine et architecturale, acquiert une dimension sacrée. Tout est affaire de souvenirs, d'impressions distillées par le temps, parfois quelques notes de musique, et bien rappellent l'émotion éprouvée dans une symphonie entière, et c'est ce qui arrive avec ces quelques pierres. J'ai parlé de famille. Je crois que le terme convient. Chaque bloc semble animé d'une présence individuelle, mais tous parlent un langage commun. Certains s'adossent à d'autres, certains sont mis à l'écart, isolés, entre eux des passages, des distances, des affinités. Que faut-il voir ? Un labyrinthe où l'esprit circule et s'égare ? Ou bien nous identifions-nous à tel ou tel bloc ? Participons-nous de cette tribu ? Et subissons-nous son errance ? Sommes-nous du vide ou du plein ? Être de passage ou être de mémoire ? Il faudra nous habituer à ces perceptions paradoxales dont le sculpteur manie subtilement le balancier. Ainsi disposée sur une sorte de présentoir, elle semble rappeler le souvenir de proches disparus, témoins et témoignages. Des pierres mémorielles placées entre les deux mondes de l'absence et de la présence. Ensemble inachevés, en perpétuel inachèvement, à l'abandon sans cesse abandonné, Staly le quitte et le quitte encore. Chaque pierre esquisse une forme qui apparaît essentiellement significative à François Staly, sorte d'archétype qu'il remplora fréquemment comme point de départ d'autres travaux. Une base carrée qui se rétrécit vers le haut, comme si elle était tentée de s'arrondir sans y arriver, ni véritablement conique, ni nettement rectangulaire. Dans tous les sens, elle tend vers une géométrie qu'elle évite. Staly ne veut pas figer la forme dans un espace mesurable, définitif, en somme géométrique. Il lui conserve l'interrogation. Cette stratégie d'approche et d'évidement nous est familière dans le processus de création de Staly. Malgré cela, il en résulte un calme, une sérénité, un sentiment d'éternité statique, sans doute grâce à la constante convergence de sa pensée et son goût pour la symétrie qui s'affirmera au fil des années. Ainsi, la sensibilité de Staly s'appuiera sur une forme analogue pour ses œuvres à caractère sacré et qui porte les noms de marabout, silence, hibou, mois de l'année, qui seront sculptures silencieuses certainement, sculptures immobiles, mais pas indifférentes. Je vais dire que nous ne leur sommes pas indifférents. Leur compagnie est essentiellement chaleureuse. Elle dégage le sentiment d'une indéniable fraternité. Approchant l'œuvre de François Staly, ma sculpture rencontre la sienne. L'une est en train de se dire, l'autre est entièrement énoncée. La première est sur une terre sans chemin, où la compagnie est rare. La seconde lutte contre l'indifférence de la ville. Toutes deux visent une unité d'une présence, l'unité d'une présence qui comblerait nos solitudes. Il est temps de dire ce que je sens de l'obscurité, ce que je sens de l'homme. À partir de quelle sculpture je regarde celle de Staly ? Ce qui demeure masqué par la clarté de l'instant, ce qui est à prendre, habite ce que le poète René Quinon nomme le noir du sexe, une nuit de désir et de supplication en toile de fond invisible sous la surface du jour. Dans le creux de l'homme, il y a l'énigme de la présence. La présence, dont il me faut chercher les véritables contours. L'avant et l'arrière du regard se rejoignent pour en dessiner la silhouette. Dans son essai sur mon travail, le poète Salas Tétier écrit « Cette sculpture, je la regarde comme infigurée et infigurable. Je l'écoute qui meurt et vit en même temps, qui meurt de ne pas mourir. C'est cette existence ambiguë dont vivent les personnages d'Anguera qui rend ceux-ci, par-delà toute philosophie dont s'orne la sculpture, si incertain de leur être, dans l'apparence qui est la leur. Que peut faire la sculpture si ce n'est parler de l'homme ? Staly le voit tout autour de lui, uni à la nature. Il le voit dans les racines de l'arbre. Il le voit dans le bloc de pierre. Il le cherche dans ce que montre le jour. Pour ma part, j'observe la nuit qui est en moi, dans la femme ou le modèle qui pose, pendant que je suis attentif au silence et à l'immobilité. Nous sommes d'accord comme deux enfants aux extrémités d'une balançoire. Je voudrais laisser le mot de la fin à François Staly lui-même. Je l'emprunte au très éclairant et émouvant film réalisé sur lui par Philippe Lanfranchi. Pierre Descargues, dont je salue au passage la mémoire, interroge avec une amicale complicité François Staly.
Donc, c'est la question stupide, hein, François Staly. Qu'est-ce que c'est que l'art ?
Qu'est-ce que c'est l'art, oui ? On peut se le demander, oui. Oui, qu'est-ce que c'est l'art ? C'est vraiment, je ne le sais vraiment pas. C'est vraiment insondable. C'est d'être ému par une forme, ému par un ensemble de formes, ému par des directions qui se créent à l'intérieur d'une forme, ému par tout cela sans savoir exactement pourquoi, mais ému profondément.
Voilà. Cher Antoine, tu n'es pas présent, mais j'ai été très touché par le regard sensible que tu as porté sur ma sculpture. Mes chers confrères, je vous remercie d'avoir bien voulu m'accueillir parmi vous, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président de l'Académie, mesdames et messieurs, je vous remercie.